notre première invitée politique, c'est vous, Nathalie Arthaud. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Candidate de lutte ouvrière à cette élection présidentielle, on est ensemble pendant un peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle.
Bonjour Auriane, bonjour Nathalie Arthaud.
Nathalie Arthaud, on va évidemment parler de votre programme, de votre campagne, mais d'abord un mot sur l'actualité. On a vu les massacres de Boutcha. On a entendu hier Volodymyr Zelensky s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour y réclamer l'exclusion de la Russie. Est-ce qu'il faut le faire pour vous ?
Tout le monde dit que c'est purement, c'est surtout des gesticulations, parce qu'en fait, ils ne le peuvent pas. Et... Bon, ces massacres sont effroyables. Hein. Moi, je pense qu'en effet, c'est aussi ça, la guerre. Hein, la guerre, c'est, je dirais, des chiens de guerre qui sont lancés contre des populations. Voilà, donc c'est atroce. Et moi, ce que je mesure, c'est que là, il y a des souffrances terribles avec ces morts, ces destructions, ces bombardements, cette terreur hein, qui s'abat sur la population. Mais c'est aussi ce fossé de sang qui est en train de se creuser entre deux populations qui étaient entremêlées. En fait, ce sont deux peuples frères. Et ce bain de sang va donc... créer un gouffre, un béant, une haine entre deux peuples. Et pour combien d'années ?
Nathalie Arthaud, vous disiez il y a quelques semaines que vous dénonciez une guerre de brigands. Vous disiez que l'OTAN avait fait de l'Ukraine sa marionnette. Est-ce que vous utiliseriez aujourd'hui les mêmes mots ?
Oui, je pense que c'est Vladimir Poutine qui mène aujourd'hui une guerre monstrueuse et qui est le premier responsable.
Guerre de brigands, on a l'impression que vous opposez, vous mettez au même niveau les uns et les autres.
Je pense que les uns et les autres ont conduit à cette situation, en effet, qui est devenue d'ailleurs immaîtrisable. Ni par les uns ni par les autres. Voilà. Je pense qu'en effet, on ne peut absolument pas s'inscrire dans cette réécriture de l'histoire, hein, nous expliquant que tout ça était arrivé dans un ciel serein, que c'était finalement le fait de Poutine qui était devenu complètement dingue.
Donc l'Ukraine serait aussi responsable.
Je pense que ce sont les manœuvres de l'OTAN, de Biden, des puissances impérialistes dans toute cette région qui ont en effet mis l'Ukraine. Au centre d'un bras de fer qui dépasse largement Zelensky d'ailleurs hein, et qui dépasse bien sûr la population ukrainienne. Mais vous savez quand même, il faut bien réaliser que l'OTAN, ce n'est pas une agence de paix. L'OTAN, ça a été une alliance militaire qui a été créée au moment de la guerre froide contre l'Union soviétique pour l'isoler, pour l'affaiblir. Quand l'Union soviétique s'est disloquée en 91, pourquoi l'OTAN n'a-t-elle pas été dissoute ? Pourquoi ? Non seulement elle n'a pas été dissoute, mais elle a multiplié les bases militaires à la frontière de la Russie, y compris les États-Unis ont envoyé un certain nombre de soldats entraîner l'armée ukrainienne. Donc c'est cette pression-là.
Est-ce que le conflit aujourd'hui ne démontre pas l'utilité de l'OTAN, puisque l'Ukraine est attaquée parce qu'elle n'est pas membre de l'OTAN et les autres pays ne le sont pas parce qu'elles sont membres de l'OTAN.
Mais justement, vous voyez, c'est un petit jeu très cynique, finalement, de la part de l'OTAN et de la part des Américains. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont utilisé, en effet, l'Ukraine pour pousser leurs pions, pour gagner en influence dans toute cette région, imposer aussi leurs intérêts économiques dans toute cette région. Mais aujourd'hui, hein, que Poutine a décidé d'aller à l'affrontement armé, hein, ils font très attention de pas être dans un affrontement qui les pousserait, compris plus loin, qui aurait peut-être d'autres conséquences, etc. Donc moi, c'est en cela d'ailleurs que je pense qu'ils sont capables en effet d'utiliser des peuples comme des marionnettes.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, aujourd'hui pour sortir de ce conflit ?
Ah. Moi, aujourd'hui, si j'avais, moi, plus de pouvoir et de possibilités, la première des choses, je pense, c'est que je m'adresserais au peuple russe. On a beaucoup dit, les experts eux-mêmes expliquent que l'armée russe est brinque-ballante, hein, mm-hmm. que finalement, un certain nombre de soldats sont dans ces...
Comment, surtout ?
Donc, je continue. Certains soldats russes sont embarqués, enrôlés dans cette guerre. Ils sont envoyés dans des coins, ils ne savent pas où, ils ne savent pas pourquoi, pour quel type de guerre, etc. Et qu'il y a quand même beaucoup de, d'hésitation et de manque de détermination. Mm-hmm, certains expliquent d'ailleurs comme ça l'échec, finalement, de l'avancée de l'armée russe. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir, en effet, s'appuyer sur le le rejet de cette guerre par la population russe.
Pour faire
qui
tomber
existe,
Poutine,
en réalité. Pour faire tomber Poutine, bien sûr. Pour faire tomber Poutine, pour le renverser, pour renverser cette dictature qui, en réalité, fait souffrir les Ukrainiens, mais beaucoup aussi la population russe.
Un mot sur ce qui se passe au Sahel, où les soldats de l'opération Barkhane sont toujours présents, même s'il y a un redéploiement et un retrait progressif. Est-ce que vous, si vous arrivez à l'Elysée, vous retirez immédiatement les troupes françaises du Sahel ou pas ?
Du Sahel et de l'Afrique. Du Sahel et du continent africain. Parce que, en
effet.
Oui, tout de suite, oui. D'abord, on voit qu'ils sont rejetés par la population du Mali elle-même. Hein, donc ça c'est quand même le fruit, voyez, d'un échec incroyable. Hein, quand François Hollande a lancé les troupes en expliquant qu'il allait sauver finalement les Maliens, qu'ils étaient appelés comme des bienfaiteurs, etc., que ça allait durer quoi une semaine, 15 jours, etc. Où on en est aujourd'hui
hein, c'est... Vous dites qu'on n'aurait pas dû y aller. Ça n'a servi à rien.
Non, bien sûr qu'on n'aurait pas dû y aller. Bien sûr que, parce qu'à chaque fois, finalement, hein, que l'armée française est lancée sur ces théâtres là, d'opérations extérieures, ce n'est jamais pour répondre aux besoins de la population.
Et ça n'a pas servi dans la lutte contre le terrorisme pour vous ?
La preuve, où en est-on ? Est-ce que le terrorisme a reculé dans la région ? En fait, il s'est disséminé. En fait, les bandes djihadistes, alors qui se mélangent d'ailleurs, hein, avec des bandes là, en l'occurrence, de brigands, des bandes armées, enfin bon, tout ça, c'est un mélange. Eh bien, elles se sont étendues. On parle maintenant que le Burkina Faso est également concerné. Donc, vous voyez qu'en réalité, ça a été une diffusion. Et il faut bien comprendre que ces bandes djihadistes, que ce terrorisme, il est alimenté par quoi ? D'abord et avant tout par le dénuement, par la misère, par la dislocation des États, le fait que justement c'est le dénuement total. Donc dès qu'on a une arme dans cette région-là, dès qu'on peut enrôler un certain nombre de soldats, eh bien on a du pouvoir et on vit mieux. Voilà la réalité de la situation. Alors combattre ça par les armes, eh bien regardez, ça mène à cet échec qu'on connaît aujourd'hui. Et vous savez, depuis le temps que la France est en Afrique, parce que c'est pas une présence tout à fait nouvelle, hein, avec la colonisation depuis le début. La France est allée en Afrique en disant « on va apporter la civilisation ». Hein, elle est belle la civilisation apportée par la France.
Autre sujet d'actualité, c'est Orpea. Le gouvernement a rendu public hier le rapport qu'il avait commandé sur la gestion des EHPAD du groupe Orpea. C'est un rapport accablant avec de la nourriture insuffisante pour les résidents, une priorité qui est donnée à la performance financière. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport et que ferez-vous pour éviter de nouvelles dérives ?
D'abord, vous aurez peut-être remarqué que le rapport n'est pas rendu public dans son intégralité. On nous cache encore des chiffres. Et au nom de quoi ? Hein, du secret des affaires.
Qu'est-ce qu'on nous cache, d'après vous ?
Il cache, mais c'est pas « on vous cache ». C'est que dans le rapport, tous les chiffres commerciaux sont biffés. Voilà. On ne peut pas les avoir. On ne peut pas les avoir au nom de la concurrence. Mais, enfin, moi, je me dis, mais dans quelle société vit-on ? Il y a une affaire de concurrence, une affaire effectivement de rivalité financière dans ce secteur-là. Mais moi, je trouve ça dingue. C'est vraiment, vous savez, l'image.
Vous voulez mettre fin au secret des affaires.
Je veux mettre fin au secret des affaires. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de recherche de profit dans ce domaine-là, comme dans le domaine de la santé. Je pense également que là, on a un rapport ministériel. Bon, très bien. On a eu une enquête de journaliste, donc de Victor Castanet, qui était effectivement très complète. Mais ça fait quand même des années que le personnel des EHPAD témoigne sous anonymat. Sous anonymat. Combien y a-t-il eu d'enquêtes d'envoyés spéciaux ? Enfin, voilà. Finalement, il y a une omerta. C'est ça la réalité.
Comment
et moi, c'est ce que je dénonce dans toutes les entreprises.
Comment vous expliquez cette omerta ?
Dans toutes les entreprises, je dénonce ça. Je dénonce qu'on n'entend pas la voix des salariés. Ça, voilà, on ne veut pas leur donner la parole. Et à chaque fois, d'ailleurs, on essaye de les faire taire. De les faire taire parce que menacés de licenciement, parce qu'ils auraient violé le secret professionnel.
Pourquoi on essaye de les faire taire ?
Pourquoi ? Mais pour cacher précisément ces méfaits. Pour cacher ces méfaits. Pour cacher même ses crimes, en réalité. Vous savez, il y a
le problème... Pour préserver les profits, c'est ça que vous voulez dire ?
Et pour préserver les profits. Mais bien sûr, pour préserver les profits.
Alors, qu'est-ce que vous faites, Nathalie Arthaud, si vous êtes élue, qu'est-ce que vous faites sur la gestion de ces EHPAD ? Est-ce que vous mettez fin aux EHPAD privés ?
C'est la même question, vous savez, sur Buitoni. Buitoni, où des salariés avaient dénoncé que finalement la propreté n'était pas faite, que sur certaines installations il y avait des signes de moisissure. Et maintenant on en est avec combien d'enfants qui sont dans le coma?
Enfin, alors, qu'est-ce que vous proposez?
Qu'est-ce que je propose? Eh bien, l'abolition du secret des affaires et qu'on donne cette possibilité-là aux salariés de dénoncer les méfaits dont ils sont témoins ou les infractions, les délits, ce qui devrait être fait, ce qui n'est pas fait. Donc, qu'on leur donne, en fait, cette possibilité-là sans qu'ils risquent leur boulot, sans qu'ils risquent leur
salaire. Mais ça veut dire que
salaire.
Derrière, on multiplie les contrôles aussi.
Est-ce non, qu'il faut pas que cette parole reste on ne peut pas multiplier les contrôles. Il faut arrêter avec ça.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la parole des salariés une fois que...
La direction générale...
Qu'est-ce que ça veut dire entendre la parole des salariés?
La DGCCRF, qui est censée faire ses contrôles, faire ses enquêtes, a souligné qu'elle n'en avait plus les moyens parce qu'il y avait eu tellement de suppressions d'emplois. Tellement de suppressions d'emplois qu'ils n'avaient plus les moyens de mener ces enquêtes. Appuyons-nous sur ceux qui savent. Appuyons-nous sur les salariés. Moi, je dis, donnons la possibilité aux salariés de mettre sur la place publique ceux dont ils sont témoins. Mais enfin, quand même,
qu'on a du mal
pourquoi
à
faire les commissions d'enquête
sur... Une fois que c'est sur la place publique, on en fait quoi?
Ben on en fait quoi? Eh bien, on interdit, on mène en procès. Écoutez, on en fait quoi? Vous prenez donc, votre voiture, vous roulez à 52 km/h, vous avez une amende qui tombe. Bon, mais quand on voit des méfaits et des délits comme ça dans les entreprises, pourquoi une amende ne tomberait-elle? Pourquoi n'y aurait-il pas de la prison pour ceux qui l'ont décidé? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi on est capable, nous, de nous contrôler dans nos actions quotidiennes à partir du moment où on a les preuves, où on a les témoignages? Eh bien, évidemment, on sanctionne, on contraint, on punit.
On va parler du pouvoir d'achat.
Voilà. À votre programme, l'une des revendications principales des Français porte sur le pouvoir d'achat, principalement depuis la guerre en Ukraine. Vous proposez de supprimer la TVA, de supprimer l'impôt sur le revenu. J'ai envie de vous demander avec quel argent, du coup, paye-t-on les professeurs? Les soignants et puis et j'en passe.
Ah ouais, vous voyez que pourquoi aussi cette revendication de l'abolition du secret des affaires qui permettrait précisément de voir tout l'argent qu'il y a dans ces multinationales, dans ces grandes entreprises, tous les profits, tout l'argent qu'il y a.
Pas dans l'école publique, pas dans les hôpitaux publics.
Non, mais en l'occurrence, on verrait justement l'argent disponible à l'échelle de toute la société, pas seulement dans les caisses de l'État, hein, mais à l'échelle de toute la société. Vous savez, rien que les 160 milliards de profits qui sont annoncés par les 40 premières entreprises cotées en bourse, le CAC 40, 160 milliards, c'est 4 millions d'emplois payés à 2000 euros net, donc cotisations incluses, etc. C'est 4 millions d'emplois, vous vous rendez compte? Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc moi je pense en effet que si on avait cette volonté-là de dire priorité aux emplois, priorité aux salaires, eh bien on pourrait faire quelque chose de très simple. On pourrait appeler les enseignants, moi je m'y vois tout à fait, hein, avec mes collègues, me réunir pour dire voilà les emplois dont on a besoin, voilà comment on devrait fonctionner, 24 élèves par classe, pas plus, donc voilà combien il faut d'enseignants en anglais, en mathématiques, etc. Combien il faut aussi d'encadrants, combien il faut d'aide aussi pour accompagner les enfants en situation de handicap. On est tout à fait capable de faire la liste et de dire les emplois à créer et ça, de le faire pas seulement dans l'éducation, dans les hôpitaux aussi. Dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Et là, je peux vous dire qu'on aurait des emplois à créer et bien sûr qu'on augmente les salaires. On doit prendre...
Et justement, un mot sur le SMIC, parce que vous voulez un SMIC net à 2000 euros. C'est beaucoup plus que les autres candidats, hein, c'est le maximum. Est-ce que c'est vraiment tenable pour les petites et moyennes entreprises, selon vous?
D'abord, pourquoi? Pourquoi 2000 euros net? C'est parce que moi, précisément, je ne pars pas de l'idée, hein, qu'est-ce qui pourrait être réalisable, réaliste, du point de vue aujourd'hui du grand patronat. Parce que clairement, de son point de vue, dès qu'on revendique, de toute façon, il n'y a rien de possible, il n'y a rien de réaliste. La seule chose qui est réaliste, c'est qu'un Bernard Arnault, par exemple, lui, encaisse 2 SMIC à la minute. Ça, c'est réaliste. C'est d'ailleurs ce qui se passe.
Donc, sur les TPE et les PME.
Donc, moi, ce que je pars simplement de ce qui est nécessaire pour vivre et ce qui est nécessaire pour vivre sans être dans l'angoisse permanente, sans se dire qu'est-ce qui va se passer si je tombe malade,
une entreprise
c'est 2000 euros.
Elle peut dépenser plus d'argent donc, qu'elle n'en gagne. Donc, est-ce qu'elle peut payer des salariés à ce niveau-là dans certaines circonstances? Peut-être que c'est plus facile pour des grands groupes que pour des PME.
Oui, c'est peut-être plus facile pour les grands groupes, mais figurez-vous que même ces grands groupes-là, ils ne le font pas.
Mais qu'est-ce que vous dites aux petits patrons ce matin?
Alors, moi, ce que je dis d'abord, ce que je dis aux travailleurs, c'est qu'on ne doit pas se laisser paralysée. Toujours en prenant l'exemple de la petite entreprise en difficulté. D'abord, je tiens à dire...
Sans parler d'entreprises en difficulté, sur les petites et moyennes donc, entreprises, comment elles font pour avoir de tels salaires ?
Un certain nombre de petites entreprises, je peux vous dire, qui payent des salaires au-delà de 2000 euros à leurs ouvriers, à leurs salariés, qui sont souvent qualifiés aussi. Donc, bien souvent, elles vont au-delà. Parce que les bas salaires, c'est pas réservé aux petites entreprises. C'est aussi chez Carrefour, c'est aussi à Michelin, c'est aussi à Peugeot, c'est aussi dans toutes ces grandes entreprises. C'est aussi dans la fonction publique. Grande entreprise, s'il en est. Dans les hôpitaux, dans les écoles, à la poste. C'est des très, très petits salaires. Donc, moi, je pense qu'il faut...
Pareil pour les collectivités. Vous dites aux collectivités territoriales, il faut payer vos agents 2000 euros net.
Mais bien sûr. Alors, ce que je
avec
pense,
des dotations de l'État,
c'est que les petites entreprises, les petites entreprises qui seraient en difficulté. Il faut comprendre aussi pourquoi elles sont en difficulté. Est-ce que ce sont les banques qui se gavent sur les petites entreprises ? Oui, souvent, très souvent. Très souvent, ce sont les donneurs d'ordre qui les étranglent. Alors, encore une fois, on doit organiser et avoir cet objectif-là, d'organiser la société, d'abord pour qu'elle réponde aux besoins de ceux qui la portent, de ceux qui la font tourner. Donc d'abord, les besoins, en effet, des salariés, de ceux qui font le boulot, de ceux qui sont à la base de tout. Moi, je suis scandalisée. Orpea, combien payent-ils leurs aides-soignants à Orpea, hein ? Orpea, on a vu justement ce micmac. Eh bien, ils ne sont pas à 2000 euros net. Eh bien, moi, ça doit être notre combat, notre perspective.
Et justement, sur la santé, préoccupation des Français également.
Oui, j'ai rien trouvé dans votre programme sur la lutte contre les déserts médicaux, qui est une des préoccupations principales des Français. On sait qu'aujourd'hui, dans certains endroits de province, il est très compliqué de se soigner. Que proposez-vous ?
Non, vous n'avez rien trouvé parce qu'on ne fait pas de catalogue de promesses électorales. Mais ce que nous défendons et ce que nous portons pour la médecine, c'est très clair depuis fort longtemps. Nous sommes contre le numerus clausus. Nous pensons qu'il faut former beaucoup plus de médecins, qu'il faut les former et pas dans ces formations qu'on connaît aujourd'hui, où c'est marche.
Il a été mis fin au numerus clausus.
Pardon ?
Il a été mis fin au numerus clausus.
Oui, mais bien trop tard. Et encore qu'il manque des places dans les écoles d'infirmières. Moi, je peux vous dire que j'ai des élèves qui sont bloqués, qui voudraient aller sur ces vocations-là et qui ne le peuvent pas. Donc, il faudrait ouvrir, démultiplier les places déjà. Donc, former plus de médecins. Et puis, aller sur la création de maisons de santé, un certain nombre de structures qui sont très demandées par des médecins qui ne veulent plus travailler tout seuls. Et on les comprend. Donc, il faudrait en effet débloquer un certain nombre de moyens.
Et obliger les médecins à aller dans ces déserts médicaux ou pas, ou vous êtes contre l'obligation ?
Je pense que si on crée beaucoup de places, de maisons médicales, peut-être qu'un certain nombre de choses pourraient être régulées.
Par l'envie plus que par la contrainte.
Oui, par l'envie, mais bon, après, on peut aussi concevoir qu'il y ait une meilleure répartition. Vous savez, moi, je suis enseignante, je suis allée travailler là où il y avait besoin, donc on peut aussi le concevoir, c'est quelque chose que moi j'imagine aussi, pourquoi pas, pour la santé.
Sur l'environnement.
Nathalie Arthaud, le GIEC a publié un énième rapport hier. Votre programme a été pointé du doigt, notamment par Greenpeace, qui trouve que vos propositions sont légères en la matière. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique ou...
Ouais, ça me fait toujours sourire.
De solution.
Pendant cette campagne, je peux vous dire que ça m'a beaucoup, beaucoup fait sourire, ces associations qui regardaient, les catalogues, électoraux, et puis qui jugeaient, du degré de verdissement, etc., en fonction de ça. Ça me fait rire parce qu'il ne faut pas les croire. Ah, ils ont tous des très, très beaux. Pourquoi ? Mais parce que toutes les promesses électorales, elles finissent à la poubelle, vous le savez autant que moi.
Donc, vous préférez ne pas
Emmanuel Macron. Maintenant, je préfère pas faire de promesses, en effet. Et je préfère expliquer d'où vient le problème.
Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique aujourd'hui ?
Mais je pense que c'est un drame, mais comme tout le monde. Je pense qu'on court à la catastrophe, mais je pense que c'est tout le système économique qui nous pousse dans le précipice. Je pense que si on ne fait rien contre ces multinationales, si on les laisse faire comme elles veulent,
qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut imposer des contraintes. Il faut absolument interdire... à ces multinationales de décider toutes seules dans leur coin. Moi, je suis pour l'expropriation des ArcelorMittal, des grands groupes chimiques, industriels, des grands groupes bancaires, des grands groupes énergétiques. Je suis pour qu'on les fusionne et pour qu'on décide selon un plan démocratiquement arrêté, au travers d'une planification démocratique, qu'on décide de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit. C'est comme cela qu'on pourra enfin gérer véritablement notre système productif. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est les lois du marché, c'est les lois de l'offre et de la demande, c'est un gaspillage inouï et tout ça. Pourquoi? Pour que ces messieurs puissent réaliser leur taux de profit demandé.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il faut produire moins?
Je pense qu'il y a des choses qu'il faut produire moins. Moi, je pense qu'il faut produire moins de yachts. Moins de yachts, il faut produire moins d'engins, moins de missiles, moins de chars de combat, moins d'avions rafales. Je pense qu'il faut produire moins, voilà, pour les caprices des riches. Et je pense qu'il faut produire plus de logements accessibles à un salaire moyen. Je pense que voilà, il faut développer l'éducation, les soins, etc., etc. Et ça, je pense que si on le demandait à la population, clairement, ça serait
expliqué. Il nous reste 3 petites minutes pour parler de la campagne. C'est votre 3e campagne, Nathalie Arthaud. C'est une campagne particulière pour vous. Vous la vivez comment? Différemment des autres?
Je crois que c'est une campagne qui est empreinte de plus de gravité parce qu'elle est ressentie par par la population. Écoutez, cette difficulté pour vivre, pour boucler les fins de mois face à cette flambée des prix, cette l'avenir, on nous explique que l'inflation, elle va s'installer, que ça sera plus dur, qu'il faudra moins chauffer, qu'il faudra faire encore des sacrifices avec cette guerre, etc., etc. La menace climatique, la menace climatique. Mais tout ça est lié. Et vous savez, je crois qu'il y a ce sentiment, vraiment cette interrogation profonde de femmes et d'hommes qui disent « Mais où va-t-on ? » Et cette conscience que ça ne dépend pas du président de la République, que c'est un problème beaucoup plus vaste, que c'est lié en effet à un système qui marche sur la tête, parce qu'il n'est pas organisé précisément pour répondre aux besoins.
Aujourd'hui, vous vous présentez comme le Parti des travailleurs. Une grande partie des travailleurs vont voter vraisemblablement dimanche pour Marine Le Pen. C'est en tous les cas ce que nous disent les sondages. Comment vous l'expliquez? En quoi vous avez échoué à les convaincre?
Non, ce n'est pas moi qui ai échoué. La plupart des électeurs ouvriers, des classes populaires qui iront voter pour Le Pen, voter pour qui avant? Pour le Parti socialiste ou pour le Parti communiste? Donc s'il y a un échec, il est à regarder du côté de leur politique, justement. Leur politique de belles promesses. Vous me reprochez de ne pas faire de belles promesses. Ben, moi, ce que je reproche, c'est que la gauche au pouvoir, elle n'a jamais tenu ses promesses. Elle n'a jamais tenu ses promesses et elle a laissé les travailleurs dans la galère. Aujourd'hui, on est face à une situation de désorientation politique dans le monde du travail. Oui, la plupart des ouvriers s'abstiennent, des précaires s'abstiennent, ou y compris les autres, ne savent plus à quel diable se vouer. Moi, j'ai envie de leur dire qu'en effet, on peut changer les choses. Nous pouvons nous défendre. Nous pouvons même remettre cette société sur ses pieds, mais ça dépend de nos luttes collectives, de notre conscience collective. Ça dépend de notre capacité à nous organiser. Donc moi, ma candidature est clairement un appel au rassemblement, un appel à la conscience que les travailleurs font tout dans cette société, mais ils peuvent défendre, ils peuvent se battre pour leurs intérêts. Et c'est en se battant pour leurs intérêts élémentaires que oui, on combattra cette course au profit, on combattra cette société complètement.
Ils ont tort d'aller voter Marine Le Pen aujourd'hui.
Pardon ?
Ils ont tort d'aller voter Marine Le Pen.
Ils ont tort de voter Le Pen. Mais ils ont tort aussi de voter Macron, ils ont tort de voter pour des politiciens professionnels.
Vous donnerez pas de consigne de vote.
Je pense que clairement, il faut qu'ils votent pour leur camp. Il faut qu'ils votent
pour le second tour, vous donnerez une consigne de vote.
Je suis dans le premier tour et je vais attendre le deuxième tour pour savoir ce qui va se passer. Mais clairement, au premier tour, je pense qu'il faut faire un vote de conscience, un vote de fierté ouvrière, dire finalement, on fait tout fonctionner. Eh bien, nous, on se battra pour que la société, elle change.
Merci Nathalie Arthaud. Merci beaucoup.
Je vous remercie.